Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Clanche. On est sur la saison 2 et on est toujours sur un podcast qui ouvre la porte des entreprises. Aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir d'être à Villers-les-Nancy, à côté de Nancy, chez Anthony Trésontanier. Comment ça va, Anthony ?
Ça va très bien, merci de m'avoir invité.
Merci de m'avoir accueilli. Alors, très rapidement, c'est le rituel dans le podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes avant d'aborder l'inote et ton parcours ?
Anthony Trésontanier, je suis un TQE à la base, donc un développeur qui a créé une boîte dans le maintien à domicile donc pour que les personnes âgées puissent communiquer.
T'as quel âge, Anthony ?
J'ai 39 ans.
39 ans et t'as bien voyagé, bien bourlingué, on va dire. On m'a dit, et j'ai lu dans une interview justement, que t'étais inventif et nomade sur ta première partie de vie professionnelle. Ça veut dire quoi ?
Je ne sais plus qui c'est qui a dû citer ça.
C'était nomade. Dans une interview écrite.
D'accord. Nomade, c'est que j'ai fait quelques pays, j'ai eu la chance de travailler en télétravail, ce qui s'appelle le digital nomade maintenant. Alors à l'époque, ça n'avait pas de nom, mais je travaillais pour l'Angleterre et je développais tout en vadrouillant dans l'Europe. Et après, inventif, parce que je pense que ça, par rapport à ça, j'ai travaillé sur 7 projets de start-up différents, je pense, avant d'arriver à celui-ci. Donc 6 avant d'arriver à celui-ci. Et j'avais toujours des idées depuis toujours. Mes copains me connaissaient pour avoir 50 idées de trucs à développer et faire, jusqu'à arriver à l'inote et à arrêter de changer.
Qu'est-ce qui te plaît dans le côté start-up ? Qu'est-ce qui te plaisait ou qu'est-ce qui te plaît encore aujourd'hui ?
Moi, premièrement, c'était la tech. Hein. Inventer des choses, inventer des produits, faire des choses qui n'existent pas, trouver des solutions à des problèmes. Ça, c'est toujours un truc que j'apprécie. C'était majoritairement ça. J'étais bercé un peu des histoires des héros de la tech qui donnaient envie de faire un peu pareil. Et il y avait quand même un peu l'aspect aussi entreprise. Parce que même si j'étais formé à la techno avec ma formation d'ingénieur, j'ai quand même un attrait assez fort pour le marketing. Aussi la partie comment faire que tout clique, hein, que comme une petite horloge, que tous les petits rouages font que entre on a un super produit mais ça suffit pas, on a des gens qui ont un problème mais ça suffit pas, et comment on fait que tout va ensemble pour qu'on ait des gens qui achètent le produit, qui puissent l'utiliser et qui puissent bénéficier de ce qu'on a inventé, de l'améliorer et ainsi de suite quoi.
Donc suivre le process de A à Z.
C'est ça, mais dans son ensemble complet, ouais.
Alors, présente-nous maintenant l'inote. On est ici dans tes locaux. L'inote, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce que c'est quoi ?
C'est la tablette pour le grand âge, le très grand âge. Donc, typiquement quoi ? On veut communiquer avec sa grand-mère. On a tous l'habitude de faire des WhatsApp, des Zoom, de peu importe. Eh ben, ça marche avec tout le monde, sauf elle. Elle a 90 ans. Lui parler d'un téléphone, d'une tablette et tout, c'est pas possible. On a inventé le truc le plus simple du monde pour faire une visio. Et pas qu'une visio. Donc, tout ce qui peut après servir. À la base, même, on était parti là-dessus. Hein, on a tous des rappels. Dès qu'on a le moindre événement et on est perdu sans, hein, le petit calendrier et autres. Et on a des gens qui ont 90 ans, qui ont des troubles de mémoire et autres, qui ne se rappellent plus. Et eux, ils doivent se rappeler de plus de choses que nous, hein, parce qu'ils ont des aides-soignantes qui viennent et autres. Et ils n'ont rien. Techno, zéro, parce que rien n'est adapté. On leur donne nos trucs à nous en leur disant que un enfant de 3 ans sait s'en servir, mais les enfants de travail le savent, mais ceux de 80 ans et plus, il y en a qui savent, attention. Hein. Il y a des gens qui sont très 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 compétents dans la techno, mais il y en a plein pour qui c'est beaucoup trop compliqué, pas rassurant du tout. Et donc c'est comme ça qu'on a créé l'inote pour ces gens-là, pour arriver à la simplicité ultime, quoi, le truc sans compromis de simplicité.
Et comment tu as eu cette idée-là ? Est-ce que c'était justement parce que tu l'as vécu à travers tes proches ? Et pourquoi aussi le nom l'inote ?
Toujours, hein, dans ce qu'on appelle la silver echo, hein, les gens qui, je crois qu'il n'y a pas une personne qui ne doit pas être concernée personnellement. Donc moi, c'était la grand-mère au repas de famille, à chaque fois qu'on arrivait, aucune idée de pourquoi on venait, qui avait des troubles cognitifs. Donc c'est comme ça que m'était venue l'idée, sachant que j'étais déjà dans une, je reprends la partie innovant, dans une des, la sixième idée, hein, je travaillais déjà sur un projet de start-up à ce moment-là, qui m'intéressait pas des masses en fait. Il y avait un besoin, mais c'était un domaine que j'avais pas beaucoup d'affinité dedans. Donc j'étais très réceptif à travailler sur autre chose, à changer une fois de plus. Et c'était ça le point de départ de l'idée. C'était un problème personnel de personnes qui ont une trouble cognitive dans la famille. Deuxième partie, tu me déposes sur l'INOT. Alors l'INOT, c'était 18 mois de réflexion pour trouver le nom. Hein. On ne s'appelait pas du tout l'INOT au début. Au début, on s'appelait Relink, un nom que...
Rien à voir. Ouais.
Rien à voir. C'était reconnecté, renoué. On détestait le langlicisme. On avait commencé comme ça, on ne s'était pas trop posé de questions. En disant, on a un produit simple et un nom compliqué, ça parle à personne. Et donc voilà, il a fallu très très longtemps pour trouver une idée de nom. Et donc l'INOT a double connotation. Tête de l'INOT, parce qu'à la base on était là pour... on oubliait des choses, et donc il fallait rappeler les choses qu'on oubliait, donc à côté de tête de l'INOT. Et la deuxième chose, c'est que les notes, on les lit. Hein, et donc c'est pour ça que le logo est coupé en deux. Il y a le N majuscule qui fait la séparation. Donc lit des notes, l'INOT.
Ok, c'est tout simplement.
Sens, ouais.
Très bien, ok, ben j'ai appris quelque chose par rapport à ça. Mm-hmm. Et ce sentiment d'aider les autres, est-ce que c'est une valeur que toi, tu as toujours eue dans tes projets, comme tu l'as dit, trouver une solution à un problème, ou là, tu l'as encore plus perçu parce qu'il y avait le côté, il y a le côté humain, là?
Je dirais oui et non, dans le sens, j'avais pas une vocation sociale, pas du tout. J'étais vraiment sur la tech, moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire des solutions et autres. Par contre, je voulais pas non plus, et ça va vers le social, faire un truc bateau, quoi. J'étais pas non plus dans la tout prix, quoi. Si le truc me parlait pas, si je trouvais qu'il avait pas de sens, qu'il donnait pas, voilà. Il y avait quand même un peu l'image un peu des héros de la tech des années 90 où ils voulaient changer le monde, quoi. Donc cet aspect un peu changer, avoir de l'impact, oui. Mais pas forcément, voilà, sur le plan, ça pouvait être dans un autre domaine et autre. Par contre, dans le sens, dans l'aventure l'INOT, ça a été un vrai élément clé, parce que quand on commence au début, c'est un peu il ne se passe rien, quoi, au début, hein, on crée des trucs. Bah, c'est ça, et tous les jours, il faut se motiver pour aller travailler sur notre truc, alors que c'est long, hein, c'est long. Et tout de suite, quand on a eu les retours des gens et tout, en mode, mais c'est génial, vous changez la vie et tout. Et encore maintenant, d'ailleurs, sur les équipes, on utilise Slack pour communiquer. Et dès qu'il y a des avis un peu sympas, on les partage tout le temps. Et voilà, on a très régulièrement des gens qui nous disent, ça a changé la vie, c'était génial, machin, c'est parfait. Voilà. Et ça nous motive à fond, quoi. Parce que quand c'est un peu compliqué, des fois, dans les startups, ça y a des hauts et des bas. Hein. Quand on est sur les trucs bas, ça nous a motivés, ça nous a tenus. Et je pense qu'un truc social, un truc qui n'avait pas cet impact, je pense qu'on aurait fait autre chose. On aurait pivoté encore, on aurait changé. Donc maintenant, c'est aussi pour ça, on me dit souvent, c'est quoi la suite? Mais en fait, ce qu'on fait dans l'INOT est tellement
ça change tous les jours.
C'est vraiment tellement, voilà, ça a tellement de sens qu'en fait, on n'a pas envie de travailler sur autre chose, quoi.
Donc là, on se remet dans le contexte, on est en 2014, quand tu lances l'INOT.
Ouais.
Qu'est-ce qui est le plus dur au démarrage? Est-ce que c'est d'avoir l'idée, la tech, et après de...
Au démarrage, rien.
Rien?
Non, au démarrage, c'est facile.
C'est facile?
Le démarrage, c'est facile, parce que tout le monde pense au démarrage, c'est dur et tout ça, mais moi, c'est pas du tout comme ça que j'ai vécu. Au démarrage, on a un peu prévu son coût, normalement, donc on a un peu de financement, on a l'énergie, on est motivé, on est plein, on est naïf, hein, donc on...
On y va.
On y va, quoi. Et puis, ce qui est dur, c'est l'enlisement, quoi. C'est au fur et à mesure, on voit sur LinkedIn ou je sais pas où, en deux semaines, ils ont levé 3 millions, et ça cartonne, machin et tout. Voilà, des histoires qui sont toujours réécrites, et voilà, on a fait énormément de raccourcis. Et puis, on est là un an et demi plus tard, et il se passe toujours rien, pas grand-chose, on est toujours embourbé, on est là, trois ans plus tard, ça... papillonne, mais on n'est toujours pas en mode success story qu'on nous a vendu à la télé, quoi. Et ce qui est le plus dur, c'est le marathon, quoi.
Et puis il y a des gens qui te font confiance aussi derrière.
On a vendu des trucs, on commence à pas arriver là où on pense qu'on arrivait, même si moi je suis un pessimiste par nature. Donc dès le début, je savais que ça allait être long. C'est plus long que ce que je pensais, quand même. Alors maintenant qu'on est arrivé à un stade où ça marche bien, maintenant tout le monde dit c'est génial, machin et tout. En fait, ce qui était dur, c'était de tenir. C'est l'endurance, quoi. C'est comme qu'on fait un marathon, 42 km, les trois premiers, c'est facile. Hein. Je pense que les gens qui sont là, ils sont prêts à faire les trois premiers, quoi. Mais quand on arrive au 30e, c'est là qu'on commence à se dire, mais quelle idée, quoi. Et donc, faut tenir, quelle idée. Alors, je dis pas qu'il faut tenir coûte que coûte. Hein. Faut trouver ce qui
juste
permet
milieu,
de tenir,
ouais.
Quoi. Parce qu'il y a plein de gens, des fois, il y a des idées, elles méritent pas d'être tenues coûte que coûte. Ça peut être une mauvaise idée. Mais voilà, il faut tenir la distance, quoi. Le plus dur, c'est de rester motivé, énergique, enthousiaste, quoi qu'il se passe.
Donc, tu as cette période-là de lancement. Et à partir de quand tu sens que tu peux commercialiser le produit et que ça prend un petit élan?
Alors, depuis le début, nous, quand on a commencé l'Inote, on a commencé à faire un truc, une erreur que tout le monde fait et qu'on referait. Et quelque part, c'est une mauvaise nouvelle. Et comme beaucoup dans l'Inote, c'est une mauvaise nouvelle qui a généré un succès derrière. En fait, au début, on a commencé l'Inote, on a un produit, c'est une tablette pour personnes âgées, donc on a voulu faire de l'hardware, pur et dur. Donc, modèle de l'hardware, c'est quoi le modèle de l'hardware? Le modèle économique de l'hardware, c'est tu mets 3 millions d'euros, 5 millions d'euros sur la table pour développer un produit, t'en achètes 50 000, 50 000, c'est très petit en volume déjà pour le hardware, t'es plus dans du 100 000 et plus, et puis t'essayes d'écouler ça, quoi. Et donc, nous, comme tout le monde, on est parti, un associé en Chine, essayer de faire le truc et tout ça. Et avec une expérience du logiciel, mais pas du tout d'expérience du hardware de mon côté. Et bah là, on a découvert toute la magie d'essayer de produire une tablette. C'est du hardware relativement difficile, hein, parce que c'est de l'électronique quand même de pointe, même si on en a partout, mais c'est pas de l'électronique qu'on fait avec un fer à souder en vitesse à la maison. Et donc voilà, donc on a un peu ce qu'on a commencé à faire ça, on se casse un peu les dents là-dessus, on voit que c'est des gros montants, il faut lever des fonds, donc il faut essayer de convaincre. C'est pas une de mes grandes spécialités, même si on a eu des grands succès par rapport à ça, mais et au final on n'a jamais levé de fonds. Hein, mais on essaye de lever de fonds, puis on se dit il faut des gros volumes. J'ai un de mes concurrents qui n'existe plus, un produit magnifique, plusieurs dizaines de millions d'euros levés, ils n'ont jamais sorti un produit, quoi. Et pourtant des mecs super balèzes, hein, pas des débutants, des équipes ultra staffées, des mecs de chez Parrot, des pointures, quoi. Bah, ils ont tout cramé sans réussir à. Ils ont fait comme tout le monde. On a essayé de faire des crowdfunding, des trucs comme ça, un peu des logiques là, pour montrer qu'il y a l'attraction. Et puis voilà. Et donc, c'est une levée de fonds abordée qui s'est passée. Tout s'est passé idylliquement au début, puis c'est coupé court, que j'ai ultra mal géré. Hein, la levée de fonds dans le process, pas dans la conviction, mais très très mal géré, qui nous a dit maintenant, il faut faire avec ce qu'on peut, quoi. Et là, on a commencé à bidouiller, à faire une tablette grand public, à faire un support imprimé 3D, à faire avec des bouts de ficelle, quoi. Et en fait, on aurait dû faire ça depuis longtemps, quoi. Parce que ça nous permettait d'être au contact, même si on le savait hein, depuis le début. Il y a une phrase qu'on dit très souvent dans les startups, si t'as pas honte de ton premier produit, c'est que t'as sorti trop tard, quoi. Donc, mais voilà, tout ça, ça nous a pris genre 3 ans. Le produit, il était toujours imparfait, rien n'était géré. Parce qu'en fait, on fait toujours le moteur, et en fait, on vend une voiture. Hein, donc on a fait le moteur, ouais c'est cool, ça fait des rappels et des routines, mais on n'a rien géré d'autre, quoi. Il faut pouvoir gérer des trucs, quoi. Il se passe des choses à distance, qu'est-ce qui se passe, du monitoring, des choses comme bien ça sûr. Sous l'emballage, ça coûte des fortunes, hein. Ça coûte souvent beaucoup plus cher que le moteur, quoi, hein, tout l'emballage. Et donc on a sorti le produit, au bout d'un moment on dit il faut y aller, quoi, top, parce que sinon on va rester dans notre petit confort. Au début, les 3 premières années, c'était cool. On est là, on n'a pas de clients, personne ne te râle dessus, on n'avait pas d'investisseurs, on avait un peu de financement, mais des choses comme ça. Mais tu étais en mode...
Tu es dans ta zone de confort.
Moi, je ne codais pas, parce que je n'ai jamais voulu coder sur l'Inote. Maintenant, je code, mais au début, pendant 5 ou 6 ans, je n'ai pas codé sur l'Inote. Parce que je ne voulais surtout pas être dans ma zone de confort.
Est-ce que tu as des retours aussi de le côté humain, des retours de famille? C'est quoi les déclarations que tu as pu avoir de clients?
On en a plein. Les clients nous envoyaient des cadeaux même. Alors ce qui est vraiment drôle, c'est que nous, on ne fait pas du tout la chasse aux témoignages, aux avis, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on est un peu obtus de manière générale et on se dit un vrai témoignage, c'est un témoignage qu'on n'a pas été sollicité, quoi. Le fait de demander, dites-nous qu'on est bien, et puis les gens, voilà, ce n'est pas un témoignage authentique, quoi. Donc nous, on ne les demande jamais. Donc ce qui est vraiment drôle, c'est que les 90% de nos témoignages, c'est quand les gens résilient.
Ah ouais?
Ouais. Quasiment tout. Donc, ils résilient pour des raisons tout à fait normales. C'est-à-dire, soit la personne, alors malheureusement, souvent, nous, la personne décède, ou la personne a un changement de...
De
cadre. Des fois, elle peut passer en EHPAD. Puis en EHPAD, ça fait moins de sens pour des raisons X ou Y. Parce que nous, il n'y a pas d'engagement, tout ça. Hein, donc, on n'essaye pas de bloquer les gens dans l'usage de notre produit. Hein. Ou des fois, pour des raisons, la personne évolue, les troubles qu'elle peut avoir deviennent vraiment trop importants et la personne ne communique plus, par exemple, ou ne comprend plus, ou voilà. Et j'ai perdu le fil de mon truc. Pourquoi je disais ça ?
Le fait qu'ils fassent des témoignages au moment de la résiliation.
Et donc, à chaque fois qu'ils résilient, c'est génial, vous nous avez changé la vie, c'était nickel, c'était vraiment parfait, merci d'avoir créé ça, merci le support, machin. Et ouais, c'est là qu'on a nos retours, et on en a tous les jours quasiment. Quasiment tous les jours, on a des retours. Là, après, une fois qu'ils nous le donnent, on leur demande s'ils sont d'accord pour qu'on le publie et on le met sur le site.
Bien sûr.
Mais tous les retours qu'on a sur le site, c'est des retours spontanés, non édités, et voilà, quasiment sans filtre, quoi. Donc ouais, on en a plein, et les gens au support, dès qu'il y a des gens qui nous disent des trucs, on a eu des cadeaux, hein, des caisses de vin, des chocolats, plein de trucs, quoi.
En tant que chef d'entreprise et avec ton vécu, avec tout ce qu'on a dit, quel conseil tu pourrais donner à un jeune diplômé qui veut se lancer ? Est-ce que tu lui dis d'abord « fais tes classes, sois salarié, prends le temps et après tu lances ton projet » ? Est-ce que tu lui dis « t'as ton idée, vas-y, t'as ton idée, mais peut-être que ça ne sera pas la meilleure, tu vas te casser la gueule, mais à force de persévérance, tu vas réussir ?»
Après, non, mais ça, déjà, je pense que le premier point, c'est de bien réfléchir à ce qu'on cherche, quoi. À ce qu'on veut, parce que on va vite à adopter les rêves des autres, hein. On nous vend des rêves de start-up, il faut être une licorne, un machin, un truc, quoi. Et en fait, ça correspond à vraiment pas grand monde, en vrai. Mais quand on nous rabâche ça à longueur de journée, c'est le truc qui plaît dans les médias et autres, c'est le truc qui a le plus de temps d'audience, quoi. Et ben, en fait, on se retrouve à faire comme les autres, quoi. Et par exemple, moi, il y a un moment clé dans le développement de l'e-note aussi, c'est quand j'ai quitté un peu les trucs de start-up, en fait. Parce que quand t'es au milieu de gens qui parlent de levée de fonds en permanence, que tu veuilles ou non, eh ben, en fait, tu finis par vouloir faire des levées de fonds.
Ouais, tellement t'es conditionné, en fait.
On te rabâche le truc, quoi. Donc, au bout d'un moment, ça rentre, quoi. Ça commence à rentrer. Et donc, tout le monde est là, je fais une levée de fonds, je vais lever des fonds, je fais une levée de fonds. Et puis, je veux pas faire de levée de fonds. Ah, peut-être c'est bien quand même. Ah ouais, ça n'a pas vu, l'autre il a réussi une levée de fonds, c'est sympa. Hein. Et puis au final, on perd un peu le cap, quoi, hein, on perd la direction. Donc voilà, je dis aux gens, savoir ce qu'on veut vraiment. Est-ce qu'on est là pour le plaisir de la tech, développer des choses, machin ? Est-ce qu'on veut vraiment... Par exemple, c'est une réflexion assez récente, mais est-ce qu'on veut gérer 2000 personnes, quoi ? Est-ce qu'on veut avoir une boîte de 2000 personnes où on est le PDG dans sa tour de cristal qui n'a plus aucun contact avec la technique, la réalité, les trucs, où on gère des managers et tout ? Voilà, c'est des petites choses déjà qu'il faut un peu réfléchir un peu plus à ce qu'on veut vraiment, quoi, une fois qu'on a de l'attrait pour ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense qu'effectivement, le mythe de Zuckerberg de « je sors de l'école et je crée une start-up », c'est un mauvais mythe, parce que bien qu'il y en a qui réussissent très bien comme ça, moi j'ai vu pas mal de catastrophes par le manque de recul aussi sur le monde du travail. Une entreprise, ça reste le monde du travail, les start-up, ils peuvent avoir des baby-foot ou quoi que ce soit, ça reste le monde du travail. Et quand on a zéro expérience du monde du travail et qu'on doit créer, c'est pas un plus. C'est clairement pas un plus. Quand on n'a jamais été managé, qu'on doit manager, c'est pas un plus. Hein. Et voilà, de fait d'avoir pas cette culture de l'entreprise, je dis des fois, moi c'est ce que j'avais fait, hein. J'avais d'abord bossé dans la tech pour maîtriser l'aspect tech. Je me dis, dans une start-up, c'est important, quoi, c'est critique.
Bien sûr.
Donc le plus on a de cordes, le plus ça sera facile aussi. Après, il faut être prêt à être très patient, parce que tout ce qu'on nous a vendu, c'est pas pour autant qu'il n'y en a pas qui l'ont réussi à faire très vite, mais la majorité font pas très vite. Et donc, il faut être patient, il faut trouver du plaisir à faire ce qu'on fait, en fait. Je pense que ça, c'est la clé. Quand on est vraiment content de se lever le matin pour faire le truc, quel que soit le résultat, parce que souvent, on veut la licorne, et ça, c'est le résultat. Mais quand on se prend des...
Tu mets en place.
Voilà, au quotidien, il faut qu'on ait du plaisir à faire ce qu'on fait pour avoir le temps de patienter jusqu'à ce que ça devienne cette licorne. Oups, ça, je sais pas, moi, j'ai pas une licorne. Et puis, voilà. Et après, je pense que moi, il y a un truc à l'époque, alors ça fait longtemps que je n'ai pas côtoyé, je côtoie un peu moins maintenant de jeunes entrepreneurs, mais pendant un moment, j'étais très dans les écosystèmes. Je pense qu'il faut trouver un bon équilibre dans aller chercher des contenus. Mmh. Alors moi, j'étais très livre, je trouvais que dans les livres, on trouvait du bon contenu, plus que du contenu pur web qui peut très bien aider dans certains domaines, mais qui n'a pas de trame. Ce que je reproche toujours au contenu, les posts, machin et tout, c'est que c'est des choses qui sont un peu isolées.
C'est des plus par rapport à une...
Quand tu cherches quelque chose, c'est très bien. Par contre, ça te donne pas la... Il n'y a pas de squelette. Hein. Il n'y a pas de ligne directrice. Donc, Donc il y a plein de bouquins qui existent, qui sont un peu clés, qu'il faut prendre avec du recul, parce que les premiers, on les lit, on dit toujours ouais, « c'est génial !» Puis après, on en lit un deuxième, on dit « ah, il se contredit avec l'autre d'avant !» Et puis on lit un troisième, on dit « mais rien à voir avec les deux autres !» Donc il faut prendre du recul, par contre, il ne faut pas juste espérer qu'on est plus intelligent que les autres, et juste que notre intelligence va faire que ça, je l'ai vu 10 fois, et en fait, au même contexte, au même moyen, au même résultat. En général, il faut croire en soi, ça je dis pas de contraire, mais quand tout le monde échoue d'une certaine manière, si on fait comme les autres, il y a de grandes chances qu'on échoue aussi, quoi. Donc
c'est cultiver en fait son esprit d'entreprise en piochant un peu à droite à gauche, et après tu l'assimiles pour toi.
C'est ça, il faut s'appuyer sur l'expérience des autres. Son expérience, c'est important, il faut s'en appuyer dessus, il faut essayer d'être meilleur par rapport à ce qu'on fait et en fonction des feedbacks qu'on a et autres. Mais il y a aussi beaucoup de documentation qui existe, de livres qui vont te parler de certains aspects, que ça soit de stratégie, de produit, de machin. En général, ça coûte pas grand-chose de lire un livre. Ça coûte 30 € de bouquin plus 2 jours, quoi. Et on peut apprendre pas mal de choses. Ça peut nous donner des outils. En général, moi, ce que j'ai constaté, c'est que ça ne sert pas tout de suite. Quand tu lis, en fait, tu dis mais j'ai rien appris, quoi. C'est pas si j'apprends des choses, c'est super, mais hein, le jour où en fait 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, t'es confronté au problème, là, le bouquin, il ressort. Et dit, ah ouais, c'est vrai que c'était comme ça. Maintenant, je viens de comprendre ce qu'il me disait, en fait. Tout le cheminement. Et là, grâce à ça, bah, j'ai 3 pistes, là. Et je sais à peu près ce qu'elles vont donner les pistes. Je sais un peu plus où ça va, quoi. Donc, moi, je sais que les bouquins, ça m'a vachement aidé. Alors après, pareil, hein, une fois qu'on en a lu trop.
Mais tu passes à autre chose.
Entre 0 et 1, c'est génial. Entre 1 et 10, c'est très bien. Entre 10 et 50, ça commence à être moins impactant. Et entre 50 et 500, ça devient une lubie, quoi. Au bout d'un moment, la valeur, elle est... Voilà, on ne va pas lire tous les livres du monde. Mais j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui avaient lu 0 livre. Et ça, je trouve que c'est...
Ça a eu raison.
Ah ouais, c'est un truc de fou. Hein. Moi, j'ai vu plein de startups qui se lancent. Zéro livre, les gars. On y va et ils ont pas... Voilà. Et on est plus intelligent. Ça, c'est un truc que je l'ai pensé. Hein.
Les œillets qui sont fermés, en fait.
C'est ça, on a notre manière de faire, on voit, on va trouver, on est intelligent, on le sait, alors c'est bon, tout le monde l'a dit, donc on va le faire. Et c'est un truc, tu vois, moi c'est par exemple avec les investisseurs, c'était une réflexion que j'avais eue parce que tu sais que t'es intelligent toi, mais les autres, ils le savent pas. Tu vois. Donc il faut penser que tu l'es, parce que sinon, voilà, moi je peux dire pas qu'il faut ou pas, je sais pas, peu importe, mais il faut avoir une certaine confiance en soi, quoi. Sinon, en général, tu te lances pas dans les aventures où t'as quasiment 95% de chances d'échouer, quoi. Donc... Mais après, quand tu vas convaincre un invest, par exemple, ça fait 50 personnes qui lui disent qu'il est intelligent. Tu vois. Et ces 50 personnes-là, il y en a 49 qui se sont plantées. Quoi. Ouais. Donc, en fait, pourquoi toi, tu serais plus crédible qu'un autre, quoi. Alors oui, si tu as fait Polytechnique, la discussion ne se posera pas. Tu vois. Ça ira direct et puis voilà. Quoi. Mais même dans les gens qui font des startups, une grande majorité ont fait école de commerce ou école d'ingénieur. Même si tu as fait une bonne école d'ingénieur qui n'est pas polytechnique, c'est-à-dire les gens, bout central, tu vois, les trucs que tout le monde connaît vraiment, quoi. Le reste arrive, ben, le gars, ouais, ok, toi, tu es comme les 40 fautes qui sont plantées, c'est toi aussi. Donc, des fois, d'avoir un peu ce recul aussi, je dis pas que, voilà, pas forcément de recette magique, mais il faut avoir confiance en soi. Mais si les autres sont plantés, si tu fais la même chose, il y a de grandes chances que tu te plantes aussi. Quand les autres y réussissent, c'est qu'ils n'ont pas fait la même chose. Et pour ne pas faire la même chose, bah, il faut aussi se documenter. Il ne faut pas aller dans l'autre extrême non plus. C'est-à-dire que je connais aussi plein de gens qui recopient à 100%. Ouais, hein.
Copier n'est jamais égalé.
C'est, voilà, non seulement copier n'est pas égalé, non seulement tu copies, tu ne sais pas ce que tu copies. C'est-à-dire que, est-ce que ça a marché ce que tu as copié? Parce que moi, je vois beaucoup dans le marketing, par exemple, on a « Ah tiens, la marque Intel fait ça. Est-ce que ça marche ?» Parce qu'ils font plein de trucs qui ne marchent pas. Hein. Donc, si tu copies, voilà. Et donc voilà, il ne faut pas non plus aller dans l'autre sens. Il faut chercher sa voix, son style, être en adéquation, mais se documenter quand même pour essayer de raccourcir un peu le délai d'expérience parce que c'est long, quoi. Il faut être conscient que c'est long.
Top, Anthony. Nickel pour la première partie qui est passée très vite.
Ouais.
On passe sur la deuxième partie. C'est un quiz de rapidité, de spontanéité.
Oh, j'adore. Je suis nul à tout ce qui est spontané.
Alors, tu réponds le plus rapidement, ce qui vient à l'esprit, ton choix préférentiel. Aide ou entraide ?
Aide ou entraide ? Aide.
B2B ou B2C ?
Oh, B2C.
Français ou italien ?
Ah, dur. Non, français.
Salarié ou chef d'entreprise ?
Chef d'entreprise.
Tablette ou ordinateur ?
Moi, ordi, et pour les autres, tablettes.
L'INA de 2014 ou l'INA de 2024?
Ah, 2024 quand même.
La musique que tu écoutes en travaillant pour te motiver?
Je n'écoute pas de musique.
T'écoutes pas de musique?
Non, surtout pas pour travailler. Ouais. Je suis très distractible. Donc si j'écoute de la musique, je chante et je travaille plus.
Donc il faut que tu sois dans ta bulle alors?
Ouais, dans un bulle, ouais, complètement.
Ok,
et
parfait.
Ouais, vraiment isolé.
Bon bah voilà, c'était pas très compliqué.
Non, ça va.
Top, on arrive à, quasiment à la fin de l'épisode. Le rituel, la dernière question, c'est pour toi, c'est quoi une clanche?
Bah moi je suis Laurent, une clanche, c'est pas une porte.
Bah c'est pas le cas pour tout le monde, hein, donc
mais moi,
c'est pour ça que je pose la question.
Bah, pour moi, voilà, une clanche c'est une poignée de porte comme tout Laurent qui se doit.
Top, et bah écoute... Merci d'avoir répondu à l'invitation. On a ouvert pas mal de portes, c'est le cas de dire, avec l'INOT. Mm-hmm. Où est-ce qu'on peut retrouver l'INOT en 2024? Site internet, réseaux sociaux, comment on peut
principalement,
contacter?
Principalement, le meilleur point d'entrée, c'est site internet, linot.fr. Réseaux sociaux aussi, on a une présence, bien entendu, mais rien de fou pour l'instant. Et voilà, site internet, c'est très bien.
Top. Eh bien, écoute, on souhaite le meilleur à l'INOT.
Merci beaucoup.
Merci encore pour ton authenticité. Et merci. Puis, on donne rendez-vous aux auditeurs, aux auditrices pour un nouvel épisode de La Clanche. À bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté l'épisode du podcast La Clanche. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis et à le partager autour de toi. Pour en savoir plus et si tu veux échanger, rendez-vous sur le site www.confidence-sportive.fr. À bientôt.